forever. NBA Now and Forever.
Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre humble serviteur que vous retrouverez tous les mercredis à l'animation du podcast qui traite l'actualité sans langue de bois, avec beaucoup de mauvaise foi comme d'habitude. Pour changer aujourd'hui, nouvel effectif avec un invité. Cette fois-ci, que je prendrai le temps d'introduire à la fin justement de cette présentation. Dans un premier temps, on a un premier protagoniste qui a tenté une transition un peu... comment dire, du software vers le hardware, mais toujours en vain. Après des zippages, il n'a pas passé son test d'entrée à Montgalet pour le montage de PC. Je vous présente notre Damas version blanc. Comment tu vas, Quentin?
Bah écoute, ça va. Hein. Là, on va s'inscrire à Epitech et on verra bien. On verra bien ce que ça donne.
Notre second larron est notre Globetrotter, notre Globetalker même, hein, n'hésitez pas à checker le podcast Globetrotter disponible sur toutes les plateformes au passage, mais c'est un peu celui qui vient dormir chez vous en fait, hein. Il est un peu dans ce concept là, sauf que contrairement à Antoine, lui ne vous demande pas votre autorisation pour aller chez vous. Je vous présente Samuel. Comment tu vas, Samuel?
Bah ça va pas très bien en ce moment, mais on va en parler pendant le podcast actuellement, je pense.
Ouais.
On souffre.
Ouais, je pense que tu souffres un petit peu et tu me fais la parfaite transition avec le troisième compère de la semaine, hein, qui est un fan, on va dire, d'histoire, qui aime bien le storytelling, etc. Sauf qu'au vu du résultat justement de ces Lakers, son histoire se transforme plutôt en cauchemar au lieu d'être un conte de fées. Comment tu vas, Kevin?
Bah écoute, ça allait bien jusqu'à 6h30 ce matin avant le dernier shoot de Jamal Murray. Voilà.
Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué, mais on reviendra très rapidement dessus. Et pour conclure donc cette line-up, hein, notre invité de la semaine, un membre du podcast et du compte Kings of France, également membre d'honneur du pays proche de la Turquie qui s'appelle la Calvitie. Il ne jure que par le slogan, hein, Bold on Lie. Je vous présente Laurent. Comment tu vas, Laurent?
Bah écoute, ça va, merci pour l'invite. Et comme je disais en off, j'ai pas la calvitie, je suis chaud.
Voilà. Tu as été chaud avant d'avoir la calvitie.
Ouais, j'ai pas eu le temps de l'avoir arrivé parce que j'avais déjà pas de cheveux, donc ça va, je l'ai dit tout.
Parfait. Et bah écoutez, messieurs, je vous propose qu'on attaque de suite parce qu'on a quand même un bon petit programme pour cette semaine. Je vous propose d'attaquer de suite donc sur les actualités. Très rapide point sur les playoffs. Premier tour des playoffs. Premier tour.
Les quoi?
Pardon.
Les quoi?
Sujet un peu sensible.
Non.
Donc premier tour des playoffs, qui a l'air de porter quand même ses promesses. Ce que je vous propose, c'est que je vous fasse rapidement un peu le compte rendu, en tout cas les différents scores qu'on a à heure, en tout cas jour d'enregistrement. Nous sommes le mardi 23 avril, hein, sortie du podcast. Donc de côté conférence Ouest, je vais y arriver, j'arrive plus à trouver mes mots. Thunder versus Pelicans, donc nous avons actuellement donc le Thunder, hein, qui s'en sort avec 1-0. Ensuite, nous avons les Clippers face aux Mavericks. Les Clippers qui mènent 1-0. On ne fera pas plus de commentaires. Ensuite, Timberwolves, Suns, donc Minnesota mène 1-0. Et les Nuggets, Lakers, les Nuggets, hein, mènent 2-0 avec notamment un énorme buzzer beater de Jamal Murray. On reviendra très certainement dessus. Et sur la conférence Est, nous avons donc les Celtics versus Heat, Boston qui mène à cette heure-ci 1-0, Cavs, Magic, Cleveland qui mène 2-0, Bucks, Pacers, Milwaukee qui mène 1-0 et New York Knicks, Sixers, New York qui mène 2-0. Messieurs, quelles sont vos premières impressions sur ces premiers matchs?
On est en dépression. Non, les premières impressions, en fait, il n'y a pas eu de surprise déjà, pour commencer. Toutes les équipes qui recevaient ont gagné. Mm-hmm. Donc, c'est une première déjà impression qu'on peut avoir, c'est qu'on va dire qu'il n'y a pas eu de choker pour l'instant.
Ouais.
Attention, le match 2, Clippers-Mavericks, on sait que quand il y a Harden, Paul George, Westbrook dans une équipe, ça peut aller très vite le choc.
Mm-hmm.
Bon, après, voilà, les Lakers, on est en dépression avec Kevin, du coup, apparemment. Voilà, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. On rappelle quand même pour les fans des Kings que Anthony Davis, lui, joue les playoffs, contrairement à Sabonis. Mais pas pour longtemps, puisque pour l'instant, il risque peut-être de les rejoindre, quoi.
Exactement, le temps de chouiner encore, là, 2-3 matchs. Après, il va nous rejoindre à Cancun, c'était tocard.
Bah toi, tiens, toi, du coup, Laurent, justement, sur ces premiers matchs, toi, quelle est un peu ton impression?
Pareil, pas de victoire à l'extérieur, même si le Thunder a eu très chaud. Pas de surprise. Là, je vais piquer un peu les séries de l'Est, les premiers tours, pour pas se cacher, on en a rien à foutre. Pas forcément.
Non, mais la conférence Est en général, on en a rien à foutre. En fait.
Oui, déjà, de base. Et je dis pas ça parce que je suis des Kings. Mais j'étais aussi impatient de voir ce qu'allait donner notre ancien joueur Tyrese Haliburton, qui n'a pas été incroyable sur le premier match. Donc, ouais, sans surprise. Là, je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas les Kings, même si c'est un petit peu vrai. La série qui m'intéresse le plus, on ne va pas se mentir, c'est Mavs Clippers. Sinon, le reste, bon, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Vous pouvez screen, les Lakers vont se faire gifler en sweep. Voilà, il n'y a pas forcément de grandes surprises. Donc, la seule bataille pour moi, c'est vraiment Mavs Clippers, où les deux équipes paraissent plutôt équilibrées. Sinon, après,
Thunder Pelicans, ça peut être serré aussi.
Ouais, mais comme le Thunder nous a éliminés, j'en ai rien à secouer. Ça ne m'intéresse évidemment pas. Non, mais après... Après, j'étais un peu ce matin, là, vu que je travaille en décalé, donc cette nuit à 3h, j'étais déjà au taf, et je regardais un peu du coin de l'œil le match de Lakers. J'ai dit, putain, ils vont le gagner, c'est con. Et quelle ne fut pas ma bonne surprise de voir que les Nuggets avaient gagné. Donc voilà, ouais, pas de grosse surprise. J'ai bien aimé le match de New York, qui vraiment, avec les trips, ont été chercher la victoire. Après, voilà quoi, encore une fois, c'est du premier tour, donc on attend de voir la suite.
Bah, c'est vrai que, pour revenir rapidement sur la série Knicks-Sixers, est-ce que c'est pas vraiment la série qui va, on va dire, vraiment animer ce premier tour? Parce que on a la situation un petit peu avec Joel Embiid, mais par contre, enfin, voir New York surtout revenir en playoff, bon là c'est la deuxième année où ils reviennent bien. Ça fait, voilà, on sent quand même qu'il y a vraiment une ambiance play-off qui se remarque, je trouve, encore plus que sur d'autres terrains, même si là on a vu les Nuggets, voilà, être complètement bouillants suite au buzzer beater de Jamal Murray. Mais est-ce que c'est pas vraiment, peut-être avec Clippers Mavs, je sais pas, est-ce que c'est pas vraiment la série à suivre sur laquelle on peut peut-être s'attendre à un résultat beaucoup plus serré que ce qu'on a actuellement?
Non.
Non? Non, bon, d'accord.
En fait, le Lakers Nuggets, il y a 2-0, mais les deux matchs sont ultra serrés, ouais, quand même. Tu vois, les Lakers sont. Enfin, les deux mi-temps, en fait, les deux premières mi-temps ont été dominés par les Lakers. Deuxième mi-temps, ça craque à chaque fois. Troisième carton pour le premier match et quatrième carton surtout pour le dernier, même si au troisième, ça commence déjà à parler chinois. Il y a beaucoup de tension dans la série aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les conférences de presse de Davis et LeBron après le match. Ouais. Ils sont un peu tendus, les mecs. Davis, je pense qu'il a ouvert sa gueule en disant qu'il était capable de défendre sur les extérieurs à la fin du match.
Oui, monsieur.
Il s'est pris un shoot sur la gueule.
La ligue ne m'aime pas, blablabla, je suis le meilleur défenseur. Voilà. Allez, va te faire foutre.
Et LeBron qui chouine sur l'arbitrage ou je sais pas quoi après le match. Coco, c'est pas sur l'arbitrage que t'as perdu le match, c'est sur tes mauvais choix que t'as fait en deuxième mi-temps à vouloir faire des drives tout seul et à garder la possession pendant 16 secondes. On sait pas pourquoi. De toute façon, les Lakers, c'est toujours pareil. Hein. Quand tu commences à voir, il y a deux facteurs. Tu vois Davis qui prend des shoots à 3 points et LeBron qui commence à garder la balle, c'est foireux. Tu sais que c'est foireux. Après, les pauvres, ils sont pas aidés. Ils jouent avec Dinwiddie et Gab Vincent qui sont à 0 points en 2 matchs en 60 minutes. Ces fils de. Pardon. Mais voilà, après, c'est toujours les mêmes facteurs. Et de l'autre côté, Clippers Mavs, c'est vrai que c'est la série qui peut être serrée, mais comme ça peut aussi finir très rapidement aussi. De toute façon, on va avoir la réponse dans ce game 2 déjà, de savoir si les Clippers vont choc à domicile ou si. Pour moi, si les Clippers gagnent leurs 2 matchs à domicile, ça va être dur pour les Mavs.
Après, pour les Lakers, il n'y a pas Wood et Vanderbilt là, qui reviennent sur le match 3, si je ne dis pas de bêtises.
Wood revient, Vanderbilt, je ne sais pas.
Vanderbilt, il était question qu'ils reviennent sur la série.
Normalement,
il devrait, mais je ne sais pas si c'est confirmé. Je ne sais pas, toi, tu as plus d'infos peut-être, Kevin ?
Et Reddish ?
Normalement, il devrait revenir pour le Game 3, ouais. Après, d'accord. On verra dans quel état physique il est. Est-ce que c'est pour jouer 10 minutes ou une demi-heure ? On verra son impact, mais ça ne peut pas faire de mal.
Ouais. Ça peut pas être pire que Gab Vincent et Dinwiddie.
Non, ça c'est sûr.
Que Hachimura aussi. Hein.
Hachimura aussi, il a fait un bon match de merde, j'ai vu les stats.
J'ai dit en off, il y a des Japonais, ils ont été exécutés pour moins que ça. Hein. sur les deux matchs, c'est ce qu'on a lu.
Mais faut quand même se rendre compte du downfall des Lakers. Là, t'es obligé de compter sur les retours de Christian Wood et Jared Vanderbilt pour espérer, et je dis bien espérer, gagner un match de playoff.
Ouais, non, c'est.
Je vais prendre le même là qui existe là. Tu vois, mais je vais pas.
Et Cam Reddish contre venir aussi ou
Cam Reddish, pour moi, il est off. Hein.
Ouais.
Ouais.
Mais tu vois, c'est Cam Reddish. Ouais, mais le problème, c'est que les Lakers, le match de cette nuit, il est frustrant parce que tu te dis, t'as Davis qui est en double-double, 32 points, 11 rebonds, qui est infernal sur la première mi-temps. T'as LeBron qui fait quand même des points importants, qui est bon. Russell, il met des 3 points de partout. Pour une fois, il fait un bon match. Donc tu te dis, on va le prendre. Et bah non. Tu te prends un buzzer, tu te fais rattraper. T'as les deux tocards de meneur sur le banc qui servent à rien. Reeves aussi passe toujours un peu entre les mailles du filet, mais il est pas bon sur la série, hein, tu vois.
Non. Il fait un début de série qui est très compliqué. Hein.
Ouais, donc. Mais contre les Nuggets, il a un problème de taille à son poste aussi, donc c'est compliqué. Mais non, ouais, de toute façon, le Game 3 il va être décisif. Hein. Soit les Lakers se recollent à 2-1 et tu viens mettre une pression pour le Game 4, soit tu te prends 3-0 et c'est fini, quoi.
Ouais.
Bon. On va pas se tortiller le cul. Hein,
non, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous avez une autre série à mettre en avant, messieurs, ou est-ce qu'on passe aux autres actus?
Moi, j'aimerais quand même qu'on parle quand même du Mavs, hein, des Mavs et Clippers, quand même. C'est important parce qu'il y en a beaucoup qui militent pour le MVP 5e de la Conférence Ouest, mais qui se fait taper en 2024 par Westbrook et Harden quand même. Excusez-moi, j'ai vu le match, je me suis arraché les cheveux quand même.
Un mauvais match.
C'est tout ce qu'il faut pas faire. Je sais pas, quand t'es un leader d'une équipe, il gueule sur les coéquipiers, il défend pas.
Mais on connaît, on sait qu'il est comme ça. Il va gueuler sur l'arbitre, sur les coéquipiers, on le sait.
Ah ouais, mais au bout d'un moment, tu peux t'espérer quand même qu'il faut évoluer, tu vois, quand tu veux quand même aller au titre. Parce que j'entends à chaque fois qu'il a pas les coéquipiers, le mec il joue avec Kyrie Irving, qui en plus c'est bon cette année, tu vois, il peut pas se cacher cette fois.
Ouais.
Donc, pareil, je pense que le Game 2, il va falloir. Soit les Mavs ils vont le prendre et les Clippers vont nous montrer que c'est toujours des merdes comme d'habitude. Soit si tu perds 2-0 et que ça va commencer à faire mal, quoi.
Aussi. Bah, Gafford, il s'est fait piétiner quand même hein, sur le match. Hein.
Ouais,
le pauvre, depuis qu'il est arrivé aux Mavs, il est plutôt bon. Là, face à Zubac, il s'est fait piétiner le pauvre.
C'est incroyable, Zubac.
C'est peut-être la différence qu'il va y avoir à se retrouver entre guillemets face à de vrais intérieurs, hein, parce que Zubac, même si c'est loin d'être le top tiers, on va dire en termes de pivot, il pèse son poids et puis voilà, t'arrives en playoff, tu joues sur du demi-terrain. Donc du coup, attention, c'est plus du tout la même donne. Tu vas être beaucoup moins sur du jeu rapide, là où sont très bons justement Gafford et PJ Washington notamment. Donc ouais, ça fait la différence. Et puis là, on voit que les Clippers ont vraiment leur expérience en fait sur ça. Et ils le font pour le moment, ils le font payer. Après, ça reste qu'un premier match. On verra bien les ajustements qui seront apportés sur le second.
Après, ce qui est compliqué avec les Clippers, c'est que ça va être dur d'avoir un match où t'as et Harden et George et Kawhi qui passe à côté en fait. Ouais. C'est que même si on a
il est sur le côté Kawhi, il est sur le banc, enfin il joue pas donc.
Oui, en fait ça, il joue pas, tu vois. Mais il revient normalement, il va revenir, tu vois. Je veux dire, ça va être compliqué que tous ils soient pas bons en même temps. Donc il suffit que t'en aies un qui soit pas bon, même si t'as les deux derrière qui sont bons. Tu vois, genre là par exemple, cette nuit, au moment, la nuit dernière, quand ils ont joué, t'avais Harden qui a été super bon en première mi-temps, puis après, à un moment, il s'est effacé, t'as George qui a commencé à enchaîner les paniers. Quand ils sont pas très bons, eux, t'as Westbrook qui te fait 2-3 runs, tu vois. Donc, Ouais, attention les Clippers, je sais pas. Plus Terrence Mann qui défend comme un animal, tu vois. Donc...
En parlant des Mavs, bon, Luka a pas été bon. Il y a les stats, ok, il fait des bonnes stats, mais bon, on va dire les choses, il a été nul sur ce match. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Kyrie, en vrai, hormis le troisième quart, la première mi-temps, il était très très discret. Faut pas remettre ça en cause non plus. Et putain, mais les coéquipiers, là, le Maxi Kleber, j'en fais
Maxi Kleber, comme dirait mon pote anti-basketique.
Il est nul à chier, ce mec. Et là, il a joué 26 minutes. 26 minutes dans un match de playoff, Maxi Kleber. Maxi Kleber, 26 minutes. Il a été nul à chier, présent pour rien du tout. Pas capable de mettre un shoot ouvert. Enfin, il y a. Les Mavs, là, tu te dis, ils ont quand même une grosse marge. Parce qu'ils ont. Globalement, ils ont tous été nuls. Globalement. Donc, on peut espérer une série un peu plus serrée à partir de ce soir, quand même.
Bon, pardon. Mais j'y crois pas, moi. Enfin, pas trop. Le problème de Luka, c'est que quand il est pas bon, comment expliquer ? De par son comportement, il n'arrive pas à redresser l'équipe, tu vois ce que je veux dire, à la tirer vers le haut. Parce que quand il est pas bon ou quand il estime que les coups de sifflet ne vont pas dans son sens, c'est-à-dire à peu près 100% du temps, il est imbuvable en fait. Il est imbuvable et il casse les couilles à tout le monde. Sérieux, j'aurais du mal à être son coéquipier parce que il râle, comme vous disiez, il revient pas en défense, il râle auprès de l'arbitre, il râle auprès de toute la planète. Donc pour moi, c'est le problème de Doncic. Un talent incroyable, mais mentalement, c'est dur. Hein.
C'est compliqué.
C'est hyper dur parce que quand il sort de son match, tu sais qu'il reviendra pas dedans.
Ah bah de toute façon c'est sur ça hein, que les Clippers jouent hein. Ils jouent vraiment sur toutes les alors déjà ils ont su vraiment exploiter les faiblesses des Mavs hein. Bon, on va pas revenir sur les faiblesses hein, on les a je pense suffisamment abordées, mais après l'une des clés aussi, et c'est là où je trouve que Doncic doit vraiment travailler pour vraiment faire gagner un cap aux Mavs, c'est frère, faut que tu sois moins impulsif, faut que tu arrives à te contrôler. Et malheureusement, c'est ça qui lui fait défaut. Et c'est aussi pour ça qu'il ramasse énormément de fautes techniques, ne serait-ce qu'auprès des arbitres. Et ça lui fait défaut au bout d'un moment. Et puis, en tant que leader, bah, forcément, derrière, bah, ça démotive peut-être un peu les troupes aussi. Donc, bon, voilà, ça reste qu'un premier match. On attend quand même de voir ce que va donner la suite. Mais c'est vrai que si les Clippers arrivent à remporter le second... je pense que l'affaire va être mal embarquée pour les Mavs. Hein. Donc, on verra bien ce que ça donne.
Le troisième match à l'ouest un peu intéressant, c'est aussi Timberwolves-Suns quand même. Ouais, il faut voir s'ils vont rebondir par rapport à la fessée qu'ils ont pris ou pas.
À voir, hein, sachant que je ne sais plus qui avait mis les Suns sortant du premier tour. Hein. Moi, pour moi, ils se qualifiaient. Hein, donc, on va bien voir ce que...
Non.
Non, vous les avez pas mis, non?
Non. Non, non. Bon, non et franchement, sur le premier match, je comprends pourquoi je les ai pas mis. Je comprends pourquoi je les ai pas mis.
Moi, je suis dans le train Anthony Edwards, moi, donc.
Ouais.
Je suis un bandeur, donc c'est bon.
J'ai une prédiction à vous faire avec cette série. Kevin Durant sera un Timberwolves l'année prochaine quand il se sera fait péter le cul par les Wolves.
Aïe, aïe, aïe. Non, bon, on verra bien ouais, ce que ça donne, ouais. Mais bon, ce serait
moi,
bien
ce
aussi.
Typé, c'est quand même, c'est ouais. Que c'est que la dire, c'est que Edwards il a cogné Bill, il l'a trash talk, après il a cogné Durant,
il l'a trash talk.
Allez, bande de connards, c'est parti.
C'est vrai que c'est dur de pas être dans le train Anthony Edwards quand même, hein, parce que le gars,
franchement, il a tout,
il est incroyable.
C'est sérieux hein, ce qu'il propose. Hein. C'est vrai que là, bah, il y en a beaucoup. Bah, il y en a beaucoup qui disent, alors après, attention, ça reste qu'un premier match d'une première série, mais il y en a beaucoup qui ont vu un Jordan année 84 un peu en lui sur ce premier match.
Avec... Laissez les jeux tranquilles, putain.
Ok, il y a des génétiques qui jouent.
Ces conneries-là.
Ah, ça m'a fait rire.
Moi, par contre, il y a un truc, moi, par contre, que j'aime beaucoup chez lui, en fait, c'est qu'il lit les paroles aux actes. Le gars est arrogant.
Ouais, c'est ça.
Quand il parle, mais derrière, il fait ce qu'il dit, et en plus, tu sens qu'il a confiance en lui, en fait, il est sûr de lui. Mais tu vois, par rapport à la référence de Jordan, c'est drôle parce que les gens ils vont trop loin, tout ce que tu veux. Mais ça me fait penser dans le film tu vois, sur Nike, là. Quand l'autre, il dit, quand il dit que quand il a vu dans le Jordan, que Jordan, il tremble pas en première année, en première année de lycée pour aller mettre son shoot. Et bah, Edward, c'est un peu ça, en fait. Tu as l'impression qu'il ressent pas la pression. Tu vois, là, il joue face à Duren, face à Booker, face à Bill. T'as l'impression que c'est lui le vétéran, en fait. Mm. Il se fout de leur gueule, en fait. Tu vois, c'est ça que c'est quand même impressionnant chez lui. Tu te dis, en fait, tu vois pas, en fait, de porte, tu sais, où... Tu sens qu'il peut atteindre un niveau au-dessus, quoi.
Ouais, non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça reste très encourageant à voir. Et puis, bon, il fait quand même preuve de maturité sur son jeu. Et ça se voit au fil des années, on voit vraiment l'évolution. Pourtant, j'étais loin d'être le premier fan le concernant, parce que c'est vrai qu'il a eu la bouche quand même très rapidement. Mais il porte les actes. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'il devient, en tout cas de mon côté, de plus en plus appréciable. Donc, en tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite pour les Wolves.
Il le dit, hein. Il le dit qu'il a encore... 2, 3, 4 ans pour être dans son prime. Donc,
bien sûr.
Ça risque d'être terrifiant.
Ouais, il a que 22 ans, hein, de toute façon. Donc, il a encore beaucoup à apprendre aussi. Et justement, là, le run de playoff de Minnesota, c'est aussi ça. Le but, c'est même si tu ne vas pas au bout, tu sais que tu vas prendre un maximum d'expérience pour Anthony Edwards. Et pour les saisons futures, bah, en fait, à chaque fois, peut-être que ça sera lui le meilleur joueur de la série. Quoi.
Ouais. Bah, pour moi, cette série aussi, elle peut être, comment dire, elle peut être révélatrice d'une chose. À voir ce que va donner Kat sur cette série.
Ouais.
Mais si ils arrivent à passer et que Kat soit pas hyper bon, est-ce que cet été ce serait pas le plomb qui sauterait au niveau de Minnesota? Je serais pas surpris. Tu vois.
Mais tu vois, ils ont été malins quand même. Ils ont ramené un meneur comme Conley, tu vois, à l'expérience, qui est un bon gestionnaire. Gobert qui a son rôle défensif. Towns, j'ai l'impression, tu vois, qu'il a accepté d'être un peu le second couteau. Tu vois, il n'y a pas eu. En fait, c'est l'impression qu'Edwards a pris le pouvoir, mais qu'il n'y a pas eu, tu vois, de conflit d'intérêts. Chacun sait le rôle où
il n'y a pas de débat en même temps.
Ouais, mais tu vois, il aurait pu faire le rôle.
Mais ça reste l'équipe de Towns de base.
Ouais, ça
oui, bien sûr, base, bien sûr.
Mais j'ai l'impression qu'il s'est mis lui-même un peu sur le côté, genre, vas-y, prends le pouvoir, petit, tu vois. Genre, c'est un peu. Je sais pas, il y a quand même un truc qui se passe dans cette franchise. J'attends de voir ce que. Comment ça va évoluer pour eux. Alors, je suis curieux. Ouais.
Ben, je pense que ça lui fait du bien à Towns aussi, parce qu'on avait vu après plusieurs années à Minnesota qu'au final, ben, il n'avait pas les épaules et il n'avait pas l'étoffe d'un leader, d'un franchise player, d'une équipe qui joue les playoffs ou qui joue le titre. Et du coup, l'arrivée d'Anthony Edwards aussi, je pense que ça lui permet de décharger un peu une partie de ça sur lui et lui, du coup, de se concentrer plus sur son rôle de second couteau et sur le basket principalement, quoi.
Et je pense que ça peut être un très bon lieutenant.
Ouais, en lieutenant, ouais, il peut être parfait.
Ouais, lieutenant.
Bon, on verra bien ce que donnera en effet la suite pour lui.
Juste sur Minnesota, ouais. Si Nasrid est sixième homme de l'année, c'est un scandale, sachez-le.
Si qui est sixième homme de l'année?
Nasrid.
Nasrid.
Non.
Si vous ne le donnez pas à Malik Monk,
j'avoue. C'est vrai que depuis deux ans, ne pas le donner à Malik Monk, c'est un petit peu compliqué. Sur ça, je te rejoins.
Il a fait beaucoup trop de matchs titulaires pour l'avoir. Après ça, c'est mon avis.
Dis quoi, Samuel ?
Il est en playoff, Malik Monk.
Il est blessé, donc quoi qu'il en soit, il est nulle part. Il a rien perdu.
Ouais, en plus, c'est ça que j'allais dire, il a pas joué depuis au moins 12 matchs. En plus, ça peut jouer.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il loupe les 12 derniers matchs. Et tu vois l'impact qu'il a sur l'équipe des Kings, mine de rien, ouais. Parce que les 12 derniers matchs des Kings, ça reste dégueulasse en Malik Monk, quoi.
C'est vrai. Bon, on verra bien. De toute façon, on aura le temps de refaire le tour par la suite des distinctions individuelles.
Tu l'as pour militer quand même aussi, ton gars.
Oui, t'as bien.
Le plus gros scandale, ce serait même pas Nasrid, hein. Ce serait qu'il le donne à Bobby Poisson Club Bourtis.
Ah oui, c'est parce que là, c'est pas faux.
Ouais.
Tant qu'il ne le donne pas à Gab Vincent, écoute.
Oh, putain. Oh la haine. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe à la seconde actu. Alors, on va parler de droits télé très rapidement. Les droits télé qui vont être renégociés à la fin de la saison 24-25. Il est question, alors ça me fait rire parce que ça me fait grave penser à la Ligue 1. Il est question qu'Amazon mette un petit peu son nez dans les affaires de droits télé. Adam Silver s'est prononcé dernièrement justement sur le sujet. Donc en effet, ils vont s'ouvrir sur d'autres broadcasters qui se présenteraient, qui voudraient répondre à l'appel d'offres. Donc il serait question en effet qu'Amazon puisse donc rentrer dans l'équation. Mais également qu'il y ait des exclusivités qui soient données pour des gros matchs, voire finale de conférence / finale NBA. Donc, il risque d'y avoir quand même un peu de grabuge. Comme ça, là, vous, ça vous inspire quoi? Parce que je me dis, ça va être un sacré bordel.
J'ai le League Pass sud-africain, donc... un peu comme nous tous.
Le chiffre, moi j'ai un chypriote.
Ou à côté j'ai un IPTV, donc je t'avoue qu'ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, j'en ai rien à secouer. Mais oui, ça va encore gonfler le truc, mais je pense pas que ça aille au bout ça.
Ouais, je sais pas.
Bah... En plus, pour faire quoi Amazon, comme avec la Ligue 1, genre ça marche pas quand t'as Amazon Prime, faut prendre un abonnement spécial.
Ouais, c'est ouais. Ça, ouais. Ouais,
c'est sûr. Tu
vois. Ouais, ça serait ça.
Ouais, ce serait sur ce système-là, je pense. Mais bon, pour le moment, on n'a pas plus de détails sur comment ils souhaiteraient un peu articuler la chose. Mais bon, voilà. Adam Silver, t'es bien mignon, mais arrête de vouloir innover pour innover.
Adam Argent, hein.
Ouais.
Pas pour rien.
Ah ouais, non, mais là, c'est... Bah, là justement, là, je trouve que ça commence vraiment à pousser à son paroxysme et c'est pas forcément bon pour le bien de la NBA tout simplement. Enfin bref, je sais pas, vous avez d'autres choses à dire peut-être sur ce sujet ou en mode Osef, ok, très bien. Ouais.
C'est bien, t'as préparé tes sujets, mais tout le monde en a rien à foutre.
Voilà, exactement. Ouais, je me sens un peu seul. Là, c'est un peu le moment de solitude, mais c'est pas grave. Autre sujet dont on a absolument rien à carrer au passage, les Bulls qui avaient proposé 80 millions sur 2 ans à DeMar DeRozan et ce dernier a refusé hein, pour le coup. Donc on avait Arturas Karmisovas qui s'était prononcé justement suite à l'élimination des Bulls au play-in, qu'il souhaitait vraiment vraiment faire du ménage, en tout cas redonner une nouvelle dynamique aux Bulls. Bah, paye ta nouvelle dynamique hein, ça commence bien.
Nouvelle dynamique aux Bulls.
Non, mais quand même, 80 millions. Pensée, moi j'ai une pensée pour tous ces fans des Bulls, tu vois, qui ont vécu Michael Jordan, qui sont tombés dans le piège, tu vois, ils sont tombés dans le panneau, et qui depuis doivent supporter une sacrée franchise de merde.
Non, il y a eu des percées avec Derrick Rose quand même,
ouais.
C'était pas dégueulasse.
Oui, Derrick Rose.
Ça a duré 2 ans, putain.
Oui.
Ouais, ça a été un peu avorté, en effet, mais bon.
Non, après, moi je dis, c'est une bonne nouvelle, hein.
Je lance
la propagande des Marc DeRozan de retour au Spurs.
Il a 34 ans le coco. Ouais. Je sais pas pourquoi il misait autant déjà sur. Qui fasse une reconstruction les Bulls parce que ça va nulle part de toute façon leur projet. Donc,
Non, parce qu'il faut quand même rappeler que, alors en termes de reconstruction, le dernier transfert de la part des Bulls date d'août 2021. Donc c'est pour dire à quel point enfin
ils ont
c'était
été interdits, peut-être en fait on le sait pas.
Ah bah c'était le trade de Lauri Markkanen à Cleveland contre Derrick Jones Jr.
Oh la vache.
Alors
c'est peut-être pour ça qu'ils arrêtent de faire des trades aussi hein.
Juste les Bulls, s'ils pouvaient juste faire un play-in encore l'année prochaine, parce que aux Spurs on a leur pick protégé 1-10.
Ah oui, c'est
juste
vrai,
juste un petit play-in histoire qu'ils nous filent un pick 11-12. Putain. Et après ils commencent la reconstruction.
Ouais, ça craint. Non, ça craint. Franchement...
Ils n'ont pas l'air pressés, de toute façon.
Bon, ouais, ils avaient parlé de bouger Zach LaVine, mais il n'y a eu personne.
Personne n'en veut.
Et personne n'en veut, en fait, je pense.
Oui, c'est un peu ça. Là, aujourd'hui...
Il y avait discussion avec les Lakers, à un moment donné, Dieu merci, il n'est pas venu, tu vois.
Ouais, bon, les Lakers, ils sont encore en discussion avec tout le monde. Oui. Donc bon, verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, ouais, bon, l'été de DeMar DeRozan risque d'être plutôt intéressant.
Je prends à Sacramento, hein, s'il est pas trop gourmand, on a besoin d'un poste 3 parce que Harrison Barnes, on fatigue.
Mais, ouais, bah.
S'il est pas gourmand, mais je pense qu'il va être gourmand, il va aller. Ou alors, il va chercher un petit contrat, il va aller aux Lakers, comme ils font tous ces crevards là.
Ça se trouve, hein. Mais le problème, moi j'aimerais bien que LeBron James se barre des Lakers. Et j'ai pas envie d'avoir une équipe de quarantenaire l'année prochaine. Quoi. Ça commence à être bon. Quoi.
Bah, on sait, hein, il ira là où ira son fils. Hein, donc,
Ouais.
Voilà. Voilà. Parce que si on a LeBron, Davis, DeRozan, la maison de retraite du coin va être contente quand même. Ça, c'est...
Ah, le spacing apprécie.
Ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne. Dernière info, alors on sort un petit peu du cadre NBA, alors, oui et non. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Janelle Salin, donc, qui est internationale féminine française, qui est la sœur hein, de Tidiane Salin, donc prospect en vue de la draft à venir, s'est vue refuser.
Peut-être chez les Kings. Hein.
Hein,
apparemment, enfin annoncé.
Ouais.
Vu qu'on a potentiellement le 13e pick, ça parle de lui potentiellement hein, parmi tant d'autres, non?
Ça pourrait être intéressant.
Ouais, ce serait pas mal, ouais. Je sais pas ce qu'il vaut, mais on essaierait de le gratter sur nos podcasts. J'essaie d'y voir un intérêt pour nous, mais je sais pas ce qu'il donne.
Non, bah à voir, mais en tout cas, donc celui-ci va très certainement être drafté, hein, donc oui, en effet, il est annoncé quand même assez haut, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que la Fédération Française de Basketball a refusé qu'elle aille assister au, à la draft de son frère, car elle sera en préparation avec l'équipe de France en vue des JO. Et trois jours après la draft, donc il y a le premier match amical, premier match de préparation pour l'équipe de France. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ? On a une affaire Marine Johannes Bis qui se présente.
Ouais. C'est ce que j'allais dire, ça vous rappelle rien ?
Ouais.
Ah bah si, une bonne bande de blaireaux qui prend des décisions de blaireaux, voilà, c'est ça.
C'est
merc, enfin. Du merc. Ouais, va te faire boire du merc.
Ah bah ça.
C'est clair.
Ouais, bah alors,
c'est un jeu originel, tu vois.
Ouais, alors qu'elle justement, on lui avait donné ce privilège-là à l'époque, hein, pour.
Exactement.
Donc je trouve ça très très mal placé pour le coup. Bon, en tout cas, j'ai envie de dire, sans me faire forcément d'ennemis, mais toute la secte Ciuta, etc. Là, faut que ça change aussi là un peu. On verra bien ce que ça va donner avec les JO, mais bon, ça risque d'être le gros déclic. Hein.
Que des petits dictateurs.
Je suis même pas sûr.
Non, je suis même pas sûr. Il y a trop de choses à bouger pour que vraiment ça fasse évoluer pour le moment.
Ouais, je sais pas.
Mais... Fédération de poètes déchus, quoi.
De poètes déchus.
Malheureusement, c'est que ça tombe toujours chez les féminines, quoi.
Ouais.
Donc on peut, oui, le sport féminin, blablabla, blablabla, mais en même temps, tu veux développer ton sport niveau féminin, mais quand il y a des opportunités, vous faites les connards, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, bien sûr.
Donc c'est un peu délicat. Comment tu veux développer un truc quand tu bloques d'autres choses à côté ?
Ah,
là, c'est incohérent et c'est pas ce qui va aider malheureusement le basket féminin.
Oui.
Même si c'est pas elle qui est draftée, hein, qu'on soit d'accord.
Tout à fait.
Bon, il y a ton frère qui est drafté, quoi. C'est pas donné à tout le monde.
Oui,
et
c'est
tu
ça.
Tu fais le crevard, alors c'est juste un aller-retour. Tu fais le crevard, dire non, bah non, on a une préparation à faire. Comme ils ont fait avec Johannes. Hein.
Mais
ça casse la préparation. Allez, va te faire voir.
Arrête, ouais. Sachant que.
Moi,
ça...
de base, j'aimais pas le père Toupane. Donc,
bah oui, alors en plus, oui. Bon, le père Toupane, en effet, ça arrange pas ses affaires non plus. Mais.
Son fils non plus, du coup.
ouais, mais sauf que son fils, lui, il est dans les fins fonds, il est dans les tréfonds de la Belclique Elite, hein, donc bon, enfin bref. Donc en tout cas, ouais, bon, c'est pas forcément encore une bonne, c'est pas encore un bon message qui est passé en tout cas pour les féminines, je trouve, et bon, on verra bien ce que donnera cette affaire, mais peut-être qu'il y aura des conséquences, on sait jamais ce qui peut se passer. Très bien, messieurs, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on arrive donc sur le débat de la semaine. Et pour cela, bah, je vais laisser Loris, comme d'habitude, faire sa petite chronique.
Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris, a.k.a. Catch and Shoot, et chaque semaine, ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Et cette semaine, on sort nos plus belles lunettes de soleil, nos bandanas mauves et chemises torse nu ouvertes avec poils apparents, et on file tout droit sur la côte ouest, direction la Californie.
Yeah. Bandana violée, faut les billets et la thune. Tollbox, Tiffel, rien que ça sort l'autotune. Juste F Curry dans le clutch, personne peut lutter. Mais devant la porte du succès, ils ont perdu la clé. Je suis l'un des codes de Malik, ça chill sur la côte ouest. Mais bon sans les Clippers, LS et la S. Presse de ma ville, 113 lights de bling dans le ciel. Roi sans couronne, le renard se fait grimper à l'épaisse.
Et cette semaine, on reçoit un local de l'étape en la personne de Laurent, rédacteur et CM pour le compte Kings France sur Twitter. Bon, évidemment, on aurait aimé t'accueillir dans de meilleures conditions, c'est-à-dire avec les Kings en playoff, mais bon, avec une seule apparition sur les 18 dernières années, vous nous aidez pas non plus, faites un effort s'il vous plaît. Faut dire que t'as du courage depuis toutes ces années à supporter les Kings, mais d'un côté, je te comprends un peu. Je vous laisse juste imaginer quand ma femme me sort, mais entre le Magic et l'OM, t'en as pas marre de supporter des losers. Je suis à deux doigts de faire une Dupont de Ligonnès, j'ose imaginer l'amplitude du self-control dont tu fais preuve si ça te titille un petit peu. Après, croyez pas, il y a des avantages à supporter les Kings. Quelles sont vos qualités pour intégrer notre entreprise ? Je suis polyvalent, investi et loyal. Loyal comment ? Je suis fan des Kings depuis plus de 20 ans. Vous êtes engagé ! Oui, il y a vraiment pas mal d'avantages. Mais pourquoi je me mettrai en couple avec toi ? Parce que jamais je ne te tromperai. Vous dites tout ça, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Je supporte les Sacramento Kings. Oh, prends-moi sur la table, grand fou ! Non, vraiment, Laurent, j'admire ta patience en adamantium. Et on va être honnête, vous avez joué de malchance cette année pour retourner à nouveau en post-season, notamment à cause des blessures. Et j'espère que vous serez à nouveau une darling de la NBA dès la saison prochaine. D'autant qu'à une époque, vous étiez un peu la risée de la Californie. Oui, parce que les Clippers, c'est une autre dimension, donc ça compte pas. Qui, je le rappelle, est un état qui compte 4 équipes dans la ligue. Et là, on peut dire que vous êtes tous dans le même sac. En effet, puisque si les Lakers sont en playoff, ils ont dû, comme les Kings, passer par la case play-in. Et vu qu'ils sont déjà menés 2-0 dans la série face aux Nuggets, champions à titre, à l'heure où j'écris la chronique, ça risque de sentir pas bon pour eux. Et je parle pas de la bouse que nous a pondue D'Angelo Russell. I see my veins, I see my veins. Non, plutôt caca une sa culotte, hein, je dirais. Si ça compte uniquement sur LeBron qui va sur ses 138 ans et AD qui peut se rompre n'importe quelle partie de son atomie à tout moment, ça va pas aller loin. Ah, bah tiens, quand on parle du loup. Pour les Warriors qui ont côtoyé la perfection pour ensuite tomber et se relever à nouveau en 2022, on est cette fois-ci face à une belle gueule de bois, comme la perf de Klay Thompson. D'ailleurs, Klay, au lieu de montrer tes quatre doigts dès qu'on te taquine un petit peu, ce serait bien si tu te les sortais du cul, hein ? Ce serait pas mal. J'ai quand même de la peine pour Steph Curry qui semble de plus en plus seul. Ce qui nous rappelle que les Warriors sont un peu plus près de la fin d'un cycle que jamais. Mouillons-nous la nuque pour cet été parce que je sens que ça va être mouvementé du côté de San Francisco qui risque de voir partir trois joueurs dont deux All-Stars avec Klay, Draymond et Wiggins.
Mais attends, il a été All-Star Wiggins, hein ?
Quant aux Clippers, j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est qu'à l'heure actuelle, bah ça va. Bon, historiquement, ça a été... Comment dire sans être vulgaire
De la merde.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc faites pas les malins, restez concentrés, car ça peut très vite tourner à la cata, cette histoire. Messieurs, je vous laisse maintenant nous dire le pourquoi du comment ça part en live en Californie, car moi, m'en voulais pas, mais je suis plutôt côte-est.
Je valide.
On apprécie en effet le son de fin. Voilà messieurs, donc le débat de la semaine. Donc qu'est-ce qui explique, parce que c'est vrai que surtout début des années, allez on va dire début des années 2020, fin des années 2010, début des années 2020, la Californie était vraiment la place du basket, hein, avec notamment la dynastie Warriors. Hein.
Un petit peu.
Bon, il y avait à la fois donc les Warriors puis les Lakers qui ont remporté le titre. Hein. Je ferai pas de commentaire sur le titre des Lakers de 2020, mais voilà. Et là, on sent un peu. Ça va avec d'autres équipes qui sont beaucoup plus émergentes, qui commencent à prendre vraiment le dessus. Quel est un peu votre ressenti, votre analyse justement sur cette. Alors, est-ce que déjà les équipes californiennes sont clairement en perte de vitesse?
Oui et non.
Ouais. Oui et non, ouais, je suis d'accord.
Allez-y, messieurs, développez.
Bah, les Lakers, Samuel en a parlé tout à l'heure, hein, c'est déjà maison de retraite depuis 3 ans. Mm-hmm. Donc, après, les Lakers, c'est vraiment un cas à part, parce que même quand c'est de la merde, tu sais que deux ans après que ce soit la merde, c'est bon, ils ont une équipe avec 4 All-Stars, 3 MVP. Voilà, donc les Lakers, c'est un peu un monde à part, mais...
Mais là, bon, 2010-2020, ça a quand même duré 10 ans. Hein. C'était long, hein. Moi j'ai souffert. Hein. On draftait les tocards, là. Les Russell, les Lonzo Ball, les Ingram, les Randle, que des mecs qui ont eu des grosses carrières d'ailleurs. Et,
non, franchement, après, vous ne savez pas drafter, hein. Quoi. Vous ne savez pas drafter aussi, c'est votre problème.
Non, parce que c'est pas vrai, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on les a draftés, c'était les gars qu'il fallait drafter. Hein. Mmh. Cette année-là, si tu draftes quelqu'un d'autre à ce moment-là, tu te fais insulter. Hein. Quand tu prends Lonzo Ball, tout le monde dit qu'il faut prendre Lonzo Ball. Hein. Ouais, pareil pour Russell à l'époque.
Après, c'est vrai que la chose qu'on peut peut-être pas reprocher aux Lakers, c'est qu'à chaque fois, ils ont quand même drafté au besoin. C'était pas forcément du draft parce qu'il y a le plus gros potentiel. Ça revient sur un débat qu'on a eu il y a quelques semaines justement sur le sujet. C'est peut-être l'une des c'est peut-être
Ingram,
l'une des exceptions
peut-être. À part ouais. Ingram peut-être c'est et Ingram encore. Que tu prends très jeune parce que ils disent que c'est futur crack et tout, mais les autres tu prends parce que c'est la star qu'il faut prendre. Randle en 6e choix, c'était un super choix à l'époque, je me rappelle, tout le monde avait dit la chance d'avoir eu Randle aussi bas, tu vois. Après 10 ans c'était long. Là les Lakers, le souci c'est que comme tu as dit, on peut rebondir vite, sachant que si tu te libères en plus du gros contrat de LeBron qui part rejoindre son fils quelque part, t'as moyen de ramener une autre star, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un projet qui a été mort directement dès le départ avec Davis et LeBron, où il fallait gagner tout de suite. Ils ont gagné tout de suite et depuis, on se les traîne un peu comme des boulets, quoi. Ouais. C'est un peu ça le problème. Les Clippers, c'est des boulets depuis la création de la franchise, donc après, c'est autre chose. Hein, c'est un autre sujet. Et les Warriors, c'est la vieillesse, tout simplement. Les mecs ont le droit de vieillir, de ne plus avoir aussi faim, de ne plus être aussi fort. Ils ont tellement dominé au bout d'un moment, tu vois.
Ouais, t'arrives en fin de cycle.
Ouais, t'es en fin de route, c'est ça, une fin de cycle, c'est une passation de pouvoir aussi. Ils sont maintenant, le pouvoir est dans le Colorado, c'est pas très loin de la Californie non plus.
Ouais. Bon, tu passes par Las Vegas, on entre et ça passe.
tant qu'il va pas dans le Texas. Hein.
Oui, bon, ça c'est une autre affaire. Bah toi, du coup, Laurence, alors c'est vrai que pour le coup, les Kings, c'est peut-être l'exception dans la question où ils ont été. Alors, il y a eu une grosse période de disette, hein, on va pas revenir dessus, mais où t'as vraiment les Kings qui sont vraiment de retour quasiment au premier plan depuis 2-3 saisons, parce que même la saison avant, la saison 2021-2022, elle n'était pas dégueu, c'était pas très loin non plus des playoffs, mais bon...
Oui, même si elle a été galvaudée en fin de saison, on a mis Fox et Sabonis au repos, bon...
Bien sûr, mais alors est-ce que c'était un peu un coup d'épée, alors pas forcément un coup d'épée dans l'eau, mais peut-être une fausse espérance, ou est-ce que tu penses que c'est peut-être Sacramento en tant que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, petit marché, parce que ça reste quand même la capitale californienne, est-ce que c'est pas elle qui va un peu suivre la tendance justement des autres équipes qui sont pas les gros marchés à justement à monter en puissance?
Juste pour reprendre la chronique de Loris, je sais ce que c'est de se faire tailler par son épouse, parce que j'ai 17 ou 18 maillots des Kings. Et mon épouse m'a quand même dit « t'en as pas marre d'avoir autant de maillots d'une équipe de clochards ». Donc bon, alors qu'elle connaît pas grand-chose au basket. La parenthèse fermée. Pour parler des Kings, il faut recontextualiser qu'aujourd'hui, on n'est que l'année 2 du projet de Mike Brown.
Bien sûr.
Ça paraît long parce que on a mangé du caca pendant très très longtemps. Finalement, la saison dernière, c'est une anomalie, hein, clairement, parce que cette année, on a 2 défaites de plus par rapport au bilan de l'année dernière et on finit 8e et malheureusement pas en play-off. Donc, je pense que là, on a atteint un plafond de verre, pardon, qu'il va falloir briser en allant chercher. Peut-être pas un autre All-Star, mais voilà, il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'il faut changer. Parce que là, de 8e, même si c'est frustrant, parce qu'on passe la majorité de la saison 5-6, on se casse la gueule un peu après le All-Star Game. Donc, il manque un truc encore. Il manque un truc pour vraiment passer ce palier. On a enfin battu les Warriors sur un match à enjeu, entre guillemets.
C'est vrai.
Pas qu'un peu. On les a
Werther bien a manqué aussi un peu, non?
De quoi?
Werther?
Kevin Werther a manqué. Ah ouais, Werther a manqué.
Bah, vu sa saison, pas trop, mais ça reste quand même des blessures, par exemple, qu'on n'a pas eu la saison dernière. La saison dernière, on n'a pas eu de blessures du tout.
C'est vrai.
Là, cette année, Fox a été un peu blessé. Monk qui loupe la fin de saison. Werther qui se déboîte l'épaule. Vezenkov qui, avant sa blessure, commençait vraiment à pointer le bout de son nez et commençait à faire des matchs à 14-15 points. Malheureusement, il se fait la cheville, il loupe une grosse partie de fin de saison. On a perdu Trey Lyles, qui pour moi, c'est mon gars. Trey Lyles, c'est un joueur très très important, même si ça ne se voit pas forcément sur la feuille de stats. Mm-hmm. Donc voilà, cette année, on a eu ce qu'on n'a pas eu la saison dernière, des blessures. Voilà ce qu'il va falloir faire aujourd'hui. Très clairement, il y a encore du boulot.
Ouais.
On n'a pas forcément beaucoup de cap, parce que Fox, il a mangé, Sabonis, il a mangé. Il va falloir nourrir Malik Monk. Mike Brown qui commence à dire bon c'est mignon les copains, mais je veux des saisons à 10 millions maintenant vu le taf que je fais. Et il a raison de demander, hein, on va pas se mentir. Mike Brown, j'étais pas un grand fan avant. Il y a encore quelques petits trucs qui me font un peu vriller, notamment ces choix de rotation, parce que t'as des mecs dont Vezenkov a fait partie, t'as Duarte qui revient, qui fait des belles choses, après il disparaît de la rotation. Il avait fait pareil avec Keon Ellis, même si après il s'est très très bien installé, et ça c'est vraiment un truc génial, la saison de Keon Ellis. T'as des mecs comme ça. T'as même Vezenkov qui jouait, après qui jouait plus. Devion Mitchell, il a mangé aussi des trucs comme ça. Il y a Kessler Edwards, qui est un joueur qui, moi, j'aime bien. Il peut être intéressant. Voilà, il y a encore des choses qui sont à changer. Mais comme tu disais, Vald, on a un petit marché.
Il m'a pas respecté, il m'a appelé Vald.
Ah non, pardon. On est un petit marché. Et on n'aura pas les joueurs, on les aura pas en fait. Enfin, les gros joueurs, on les aura pas. Les joueurs qui sont en fin de contrat, on les aura pas. Ils vont pas venir chez nous. Donc malheureusement, McNair va devoir être intelligent. Voilà, ce sera des petits coups qu'on va faire. Et je pense pas qu'aujourd'hui la rotation ait changé énormément. Si Malik Monk part, ça va nous faire énormément de mal. Ouais. Mais il commençait déjà à le dire, là, on l'a tweeté là, hier soir lors de la conférence de presse, qui disait « Oui, j'aimerais bien rester à Sacramento, mais sortez le chèque, quoi. »
Bah, logique.
Enfin, il même a dit, moi, je vais rester à Sacramento, mais à côté, je veux un rôle de starter. Ce qui est totalement compréhensible. Hein. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes au NBA où il serait starter facile. Mais pas chez nous, bizarrement.
Mais est-ce que, ouais, mais est-ce que ce serait sa meilleure place ? Je suis pas sûr.
Bah, il a dit aussi, paradoxalement, il a dit, voilà, moi, je veux un rôle de starter. Maintenant, si mon meilleur rôle est de sortir du banc, pas de problème. Ouais. Mais payer un mec 22, 24, 25 millions par an pour sortir du banc, moi, ça me fait mal.
Non, bah
ça, c'est mon avis. Hein.
C'est sûr.
Mon avis. Ça fait cher pour un sixième homme. Donc, voilà, il y a du taf à faire cet été, notamment renforcer le banc. Les McGee, tout ça, là, allez, foutez-moi le camp. C'est mignon pour l'expérience parce que, bah, effectivement, McGee, c'est un multiple champion NBA, ça apporte quelque chose. Mais ça n'a pas apporté sur le banc. Et malheureusement, comme je vous disais, on va être un peu bloqué parce que les seuls joueurs qu'on va pouvoir trade, c'est Werther, c'est Barnes et c'est à la rigueur Devin Mitchell. Murray ne bougera pas, c'est sûr et certain, parce qu'il a montré de bons progrès autant défensifs qu'offensifs cette saison, même s'il est encore un peu sur courant alternatif. Donc voilà, ça va être compliqué. Et encore une fois, au niveau du free agent, tu as les Warriors, tu as les Clippers, tu as les Lakers. Sacramento, c'est vraiment la dernière équipe de Californie à laquelle tu penses aller en tant que free agent.
Ouais, non, c'est sûr. Bah, après, c'est vrai qu'il y a aussi, on va dire, un souci d'attractivité hein, qui a à prendre en compte. Bon, les Lakers, hein, je refais pas le portrait. Les Warriors, bah, depuis surtout la période 2010 avec la dynastie qu'on a connue, bah, c'est vrai que bah, c'est de toute façon l'équipe qui est la mieux cotée. C'est l'équipe qui a la meilleure valeur marchande, qui a plus de 6 milliards de dollars, je crois, un truc du genre. Donc derrière, ce sont les Knicks. Voilà, c'est vrai que pour le coup, les Kings, c'est. Bah, en fait, ce qui.
Ouais, mais tu regardes à l'ouest, au final, que ça soit les Lakers, les Warriors et les Clippers, les trois, en fait, c'est un peu la fin d'une génération. Dans le sens
clairement.
Où toutes les stars des années 2010 sont dans ces franchises-là. Et donc tu as LeBron, Davis, Curry, Thompson, Harden, Westbrook, Paul George, Kawhi. C'est un peu sur les 10 meilleurs joueurs de la dernière décennie, sept qui sont là.
Ils sont représentatifs, en fait,
C'est ça. Donc les mecs sont en fin de. Et en plus, si tu continues en plus à descendre plus bas, que tu comptes l'Arizona avec Phoenix, je crois que tu as les 10 meilleurs. On se rend compte que Phoenix, qui est pas en Californie, a un peu le même souci aussi, c'est que. C'est des équipes, c'est soit ils gagnent cette année, voire l'année prochaine, soit c'est fini en fait. C'est clairement, c'est des joueurs qui vont partir à la retraite, qu'il va falloir reconstruire, qui vont passer, je pense, 5 années prochaines, qui vont être assez dures. Et au final, les Kings sont un peu les seuls qui ne sont pas vraiment dans cette politique-là et dans cette situation-là.
Mais on n'est pas attractif quand même. L'attractivité, on l'a pas.
C'est ça, ouais. Vous n'êtes pas attractif.
Parce qu'un des Rosen, il ira plus aux Lakers qu'aux Kings. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr.
Ah oui, en plus, lui, il est originaire d'LA, donc.
Les joueurs comme ça, ils vont plus aller chercher la facilité, entre guillemets, à avoir une bague l'année prochaine ou dans 2 ans, plutôt que venir au King sur un projet à moyen-long terme.
Ah, en plus, le cas de DeRozan, en plus, il colle encore moins, on va dire, à un projet Kings parce que lui, il avance en âge. Donc, en effet, il va rentrer dans la mentalité, on va dire, d'un ring chaser, ce qui est tout à fait entendable en soi. Mais
le souci des Kings, c'est qu'il y a des bons joueurs, mais comme tu as dit, il manque peut-être le joueur qui fait la diff. Sabonis, c'est un très bon joueur et Fox, j'adore Fox. Hein.
Attention à ce que tu vas dire pour Sabonis. Hein. Je suis en guerre là depuis le début de saison avec tout le monde. Il va me faire un ennemi en plus, ça me dérange pas.
C'est un bon joueur, mais je veux dire, en fait, tu peux pas espérer peut-être aller plus loin si ton deuxième meilleur joueur est tourné à 19-4, 13-7, en fait. Tu vois, je sais pas si tu. Il faut être un peu plus. T'as besoin d'avoir un mec qui est capable de te foutre un soir 45 points dans la gueule, tu vois.
Ah bah, Yann Murray l'a fait, hein.
Est-ce que peut-être que ça viendra de lui, hein, tu vois,
Tu vois, vis-à-vis de Kylian Murray, alors après, c'est vrai que je suis pas celui qui regarde le plus les Kings, hein, sans faire d'offense, mais est-ce que c'est surtout... On l'a vu même avec les Warriors, même s'il a remporté un titre avec, est-ce que la case Harrison Barnes, est-ce que c'est pas lui dont il faudrait, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un joueur qui soit, on va dire, alors c'est un joueur qui est hyper fiable, moi j'ai toujours beaucoup apprécié, hein, étant moi-même fan de la fac de Caroline du Nord, mais voilà, c'est peut-être pas celui qui va réussir, on va dire, à transcender, même si c'est un peu une assurance tout risque, entre guillemets. Mais quand on est vraiment sur des matchs qui comptent, où on a besoin d'un véritable taulier, est-ce que, justement, un autre profil que Harrison Barnes ne le ferait pas du bien ?
Bah, ça fait des années qu'on réclame un vrai poste 3, en fait.
Ouais.
Ça fait des années, des années, des années, des années.
Keegan Murray ?
Oui, mais ouais. Si tu dis Keegan Murray en 3, il te faut un très bon 4, en 4. Soi.
Ouais.
Même si, moi, j'ai milité cette saison pour mettre Trey Lyles en 4, mais ça, parce que c'est par amour. Mais oui, Barnes... Après, quand tu regardes un peu les confs de presse, Barnes, il est apprécié dans le vestiaire, bien le sûr. Rôle de leader, machin, tout ça. Mais ce qui manque vraiment à cette équipe, c'est un mec méchant. Shumpert, on l'a perdu, on a regretté sévère. Je dis ça par rapport à quoi ? Le match contre les Pels, là, t'as Larry Lenz qui pousse le visage carrément, je sais même plus, Devian Mitchell, je crois.
Oui, c'est ça.
Il n'y a personne pour lui sauter à la gorge.
Ça, c'est vrai.
Il manque ce leader-là, vous voyez ce que je veux dire ? Un mec qui va au charbon pour l'équipe. Le reproche que je fais à Fox, c'est que pour moi, hors terrain, c'est pas un leader.
Il n'a pas
ce côté-là. Ça s'est montré un peu cette saison. Ça lui a été reproché d'ailleurs que quand les Kings traversaient une mauvaise période, on le voyait pas dans les médias. Il se cachait en fait. Donc voilà, il y a eu un peu ce reproche. Il manque ce côté pas agressif parce que c'est pas le mot, mais le côté où quand faut aller au charbon, faut y aller quoi.
Ouais, bien sûr.
Et il manque ce joueur-là. C'est ce qu'ils ont essayé d'aller chercher avec McGee parce que l'expérience, parce que tout ça. Mais bon, McGee, il est gentil. Il traîne un peu aussi cette image de Shaquille O'Neal, on va pas se mentir. Voilà, il nous faut un poste 3, mais il nous faut aussi sur le banc. Et c'est ce qui a très bien marché avec Dela Vedova l'année dernière.
Alors,
il avait ce rôle. Il l'a très bien fait. Mm-hmm. On a réussi une très belle saison. Et cette perte, c'est un peu chiant. Bon, même s'il avait. Quoique, il n'était pas si vieux que ça, hein, Dela Vedova en vrai. Mais. Voilà, c'est les joueurs comme ça, pas les nasty guys, parce que c'est pas le mot que j'aime utiliser, mais ce joueur qui va aller au charbon, et aujourd'hui on l'a pas, et je pense que dans une équipe, il t'en faut un pour passer un cap.
Alors,
on est très gentil en fait, et Harrison Barnes, c'est vraiment pas le mec qui va aller au charbon.
Ah, c'est ça.
Voilà, c'est le gentil idéal, tous les ans il est dans le trophée du mec le plus gentil, là, qui cueille des fleurs, des tartes aux voisins, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tous les ans il est dans ce trophée, mais c'est très bien, hein. Mais il nous faut autre chose. Et Barnes, pour moi, c'est le premier fusible qui doit sauter, soit qui sortira du banc, ou soit qui sera trade. Mais bon, il est arrivé, je crois, en 2018, de mémoire.
Oui.
À chaque période de trade, on parle de lui, et puis finalement, il est encore là, quoi.
Bien sûr.
Mais en tout cas, à l'Ouest, il va falloir bien bosser cet été, parce que je pense que Houston va être meilleur l'année prochaine, encore.
Ouais.
T'as les Grizzlies qui vont peut-être revenir aussi. Tu vois, ils ont fait une saison un peu. J'ai l'impression que c'est une saison un peu dans le vide cette année qui compte pour Cooper, mais l'année prochaine, ils vont revenir à un niveau. Je pense qu'ils vont se taper pour les playoffs aussi. Les
Spurs, leur saison des Grizzlies, elle est foirée parce qu'ils ont un leader qui a 2 QI. Hein. Ça, c'est
ah, bon. Ça, ouais. Ouais, ça, c'est
oui.
Même s'il se blesse après, mais bon, ouais. C'est un peu de sa faute hein, quand même.
Bah, ça aurait pu lancer leur saison s'il était présent dès le début, c'est sûr.
Exactement.
Ouais.
Donc l'année prochaine, il sera présent dès le début normalement, donc ça devrait. Je pense qu'ils vont redevenir sérieux. Et les Spurs vont progresser aussi, je pense. Donc à l'Ouest, il va falloir vraiment bien bosser l'année prochaine. Hein.
Ah, c'est vrai que la conférence Ouest, l'année prochaine, elle risque d'être encore sympathique à regarder. On verra bien ce que.
J'ai vu un truc intéressant qui disait que Sacramento a le pick 13. Ça va être à peu près ça.
Ouais.
Et que c'est pas arrivé qu'une équipe avec 46 ou 47 victoires a un pic aussi haut depuis Mathusalem, quoi. C'est dire aussi le niveau de cette foutue conférence. Ouais. Et que t'es en positif avec 10, 11, 12 victoires de plus que les 50%, et tu fais pas les playoffs, quoi.
Ah, c'est vrai que c'est ouf. Parce que.
Il y a aussi ce truc à prendre en compte, même si effectivement les équipes sont moins performantes, ce que vous voulez. Et je pense que la saison des Kings, elle ne se perd pas contre les Pels. Elle se perd avant, là, les matchs à con que tu perds à domicile, là. Détroit, Charlotte, tous les Bulls, tous les tocards comme ça que tu perds au cours de la saison. C'est ça qui te tue ta saison. Et c'est, pour moi, ce n'est pas le match des Pels. Même si quand tu prends 6 défaites par la même équipe dans une saison, c'est historique et ça pique un peu. Mais voilà, Sacramento aurait dû être en playoff, peut-être à la place des Suns.
Ah
aurait dû. En tout cas, aurait dû.
Alors bah après ouais à voir. Enfin je c'est vrai que bon de toute façon on pourra remuer autant qu'on voudra oui. Hein, malheureusement et refaire l'histoire. Mais alors est-ce que justement parce que je repense un petit peu à comment dire au cheminement qu'on avait par rapport aux constructions d'équipes etc. Est-ce qu'en fait pour les franchises alors, on peut même limite étendre un petit peu à la division Pacifique tout simplement, sans forcément rester sur les équipes californiennes, parce qu'on prenait le cas justement de Phoenix. Est-ce que c'est pas tout simplement la fin d'un modèle où on rassemble le maximum justement de gros joueurs pour essayer de faire une super team et, comme on a pu avoir dans les années 2010, et en fait on se rend compte, et on l'a encore vu, là malheureusement c'est encore une équipe où il y a Kevin Durant, hein, désolé, hein, mais c'est...
c'est bizarre.
C'est, voilà, c'est l'ambassadeur des super teams.
Quel hasard.
Quel hasard. Coucou ma panda au passage. Comme on l'a vu à ce qui s'est passé avec Brooklyn, en fait, est-ce que c'est pas tout simplement la fin d'un modèle avec justement, et c'est là où aussi le modèle Warriors est un petit peu l'intrus, on va dire, dans tout ça. C'est est-ce que maintenant, je vais continuer dans ma logique. Est-ce que là, on n'est pas en effet avec le cas des nouvelles équipes qui sont émergentes où maintenant c'est, il faut avoir un projet long terme, faut arrêter de vouloir. Avoir une vision à 2-3 ans maximum de voir le titre immédiatement et que maintenant en fait le niveau de jeu devient tellement enfin le niveau de jeu et les profils aussi des joueurs devient tellement homogène maintenant que d'avoir une ou deux anomalies rassemblées dans la même équipe ne va plus forcément suffire parce que le niveau de jeu même enfin le niveau des joueurs est devenu tellement bon que maintenant ça suffit plus d'avoir peut-être un ou deux joueurs qui va faire la différence. Je sais pas.
On le voit même au sein des Warriors, hein, finalement, même si j'ai dit pas forcément, en fait, je me contredis. On le voit, puisque la vague qui va arriver derrière le trio, c'est qui? C'est Kuminga, c'est ouais. Podzinski, là, Podzinski, je sais pas trop comment on dit. Voilà, c'est leur intérieur, là, JTG, là, j'ai oublié son nom, là, Jackson, je sais plus quoi.
Ouais, JJ Jackson. Voilà.
C'est des joueurs qui sont arrivés un peu de nulle part, qui ont été draftés. Donc oui, vous avez raison. Aujourd'hui, les Nuggets, c'est des mecs qui ont été draftés. C'est le contre-exemple, je pense, et ça va se casser la gueule. Tu parlais de super team. Je pense que les Bucks, ça va se casser la gueule.
Ah.
Je pense.
Est-ce que ça n'a pas déjà commencé?
Depuis que Doc Rivers est arrivé, je crois que c'est...
Oui, c'était un peu foireux.
Je pensais pas que Doc Rivers...
Parce qu'aujourd'hui aussi, on a une très très grosse génération qui est en fin de carrière. Et que derrière, c'est les Anthony Edwards qui est drafté par les Wolves, c'est Doncic drafté par Dallas. Ça reste des joueurs draftés aujourd'hui qui n'ont pas trop bougé dans les, entre guillemets, nouvelle génération, même si Doncic a fait quelques années qu'il est là. Donc ouais, je pense qu'avec cette vague-là de retraite qu'il va y avoir dans les 3, 4, 5 prochaines années, ça va aussi balayer le coup des super teams. Parce que la nouvelle génération n'a peut-être pas aussi cette mentalité. Ça, c'est.
Oui.
Il y a peut-être de ça aussi.
Après, il faut voir hein, si Edward il se prend 6 branlées de suite à l'ouest et que Doncic il se prend encore une branlée cette année, l'année prochaine, ils vont commencer à vouloir créer des teams aussi. Hein. Si Trae Young il voit qu'il est toujours aussi nul et qu'il ne progresse pas à Atlanta.
C'est même pas ça, tu vois. C'est quand ils vont voir qu'ils vont se faire péter le cul par un mec de 2m24. tous les soirs, tous les ans, et on se faire exploser par un français avec son petit accent qui est indéfendable, bah voilà, forcément ça va vouloir se rassembler parce qu'il sera trop fort pour eux.
C'est parce que c'est juste on a une période de transition un peu, je pense, pendant 5 ans t'as Banchero aussi au Magic, pareil le Thunder c'est une équipe de jeunes aussi, mais à l'époque quand il y avait Durant, Harden, Westbrook, c'était une équipe de jeunes draftés aussi, et au final ils ont tous parti créer leur team, ensuite il y en a un qui a rejoint une super team, on citera pas son nom. Tu vois, ça, en fait, il suffit qu'il y ait des échecs qui s'enchaînent, et après, chacun va commencer à vouloir rejoindre son pote et vice versa. Je pense que là, c'est juste une période de transition, et après, je pense que ça va peut-être revenir. Hein.
Je suis pas si certain. Enfin, j'ai un peu plus. Enfin,
Doncic, il se prend encore deux branlées deux années de suite. Tu penses pas qu'il va se barrer ou essayer
Ça va. Doncic, je pense que ça va être à double tranchant. S'il fait le mec comme Dirk à vouloir être à tout prix loyal envers Mark Cuban, etc. Enfin, Mark Cuban, non, c'est plus Mark Cuban maintenant, mais envers les Mavs. Bon, je pense que ça, en fait, ça va le suivre. Je pense que le vrai, ça y est, j'ai plus le temps, mais en tout cas, celui qui va être énormément surveillé justement et qui peut donner une tendance pour la suite, je pense que c'est clairement lui. Je te prends par exemple cette saison, parce que c'est un peu une saison décisive aussi avec le cas de Kyrie Irving, sachant qu'il a été prolongé, Kyrie Irving d'ailleurs, à Dallas. Si ça le fait pas, et là qu'il sort dès le premier tour aux Clippers, attention à ce qu'il gueule pas, qu'il fasse peut-être sa diva. Par contre,
Tatum aussi, hein, Tatum il se fera encore deux branlées ou une branlée encore là avec les Celtics, soit que ça échoue.
Je suis moins catégorique quand même concernant Tatum parce que
Jalen Brown qui bougera que Tatum. Hein,
ça, ouais, voilà.
Ouais, aussi.
Oui, je pense aussi.
Non, mais même Tatum, hein, parce que là cette année. Déjà, juste cette année, s'il n'y a pas le titre aux Celtics...
Ah, ça va chier.
Il va se poser des questions, je pense. Ce qu'il aux Celtics
Faudra...
2017.
Faudra... Si en plus LeBron il libère une place aux Lakers...
Putain. Il va arriver, il va avoir la statue de Kobe, il va... Je ne décrirai pas ce qu'il va faire.
Il va éjaculer sur le parking.
il va essayer de gober la statue. Hein.
Il va attendre la free agency pendant tout. Il va faire que des blessures en attendant.
Justement, par exemple, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte aussi aujourd'hui, c'est que on a des cuvées d'excellents rookies sur lesquels tu peux te baser. Chose qu'on a eu un trou là pendant quelques années. Aujourd'hui, tu te dis que tu peux garder la même équipe avec un rookie qui va changer ta franchise, les Spurs notamment.
Le projet
long terme, tu peux le baser aujourd'hui avec d'excellents rookies, de très bonnes cuvées.
Genre
Scoot Anderson.
Non mais Mario Ball.
Marvin Bagley.
Non mais tu... c'est bien pour le coup, tu reviens justement un peu à ce que je voulais développer tout à l'heure, Laurent. C'est justement, on a beaucoup plus l'impression en effet que d'avoir des joueurs qui, lorsqu'ils sont draftés, qui veulent vraiment s'investir dans les projets sportifs des équipes qui les ont accueillis. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir un peu une nouvelle tendance où tu vas avoir des équipes qui vont quand même essayer de faire le maximum pour garder leur tête d'affiche, en tout cas leur jeune prospect, parce que on peut reprendre le cas, on verra ce que ça va donner par la suite aussi pour Chet Holmgren. Il y avait le cas Ja Morant, enfin voilà, il y a des têtes d'affiche qui pour le moment, en tout cas, ça reste, voilà, tu penses à Ja Morant, tu sais que ça va rester aux Grizzlies pour le moment, il n'est absolument pas question qu'il aille ailleurs, et c'est pour ça que je pense que Doncic, ça va vraiment être le curseur. Voilà, j'avais plus le mot, mais ça va être vraiment le curseur selon ce qu'il va vouloir faire par la suite, qui va peut-être donner une tendance aussi aux autres. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on est vraiment sur une rupture en termes de management et de vision des équipes. Parce que, pareil, on prend le cas des Spurs. Le cas des Spurs, là, pour le coup, avec Victor, enfin... À cette heure-ci, il est tombé vraiment dans la bonne équipe parce qu'il était sur un
bizarrement, projet. Bizarrement, il est tombé aux Spurs.
Voilà, bizarrement.
Bizarrement.
Oh la main chaude.
C'est le hasard.
Oups, une enveloppe froide.
C'est le hasard. On vous dit, c'est le hasard.
C'est comme c'est bizarre.
Ouais, comme c'est bizarre, exactement. Mais voilà.
C'est qui la dernière super team à avoir gagné un titre? C'est les Warriors avec Durant, non?
Oui.
Vraiment.
Les Lakers?
2020
Non, parce que t'as un big two en fait. T'as un one two.
Oui, voilà, ça, moi, je parle vraiment d'une vraie super team, même si effectivement les Warriors, comme tu disais, c'est différent parce que la base elle est draftée.
Voilà, c'est ça.
Oui. Mais il y a le petit move.
Bah, la dernière vraie super team. Alors après.
Miami
Ouais. Mmh. J'avais pensé à Miami.
Bah, d'aussi loin que j'essaye de penser. Hein.
Je dirais Miami, bah, du coup 2013.
Donc, ce qui prouve bien que les super teams, finalement, ça reste globalement un échec.
Ça, c'est limite.
Ouais. Ouais. Mais depuis la création des super teams, j'ai envie de dire.
Lakers 2004.
Pour moi, c'est Rockets, même avant les Rockets de Olajuwon, Barclay.
96-97, là. Ouais, où il y a Pippen, tout ça.
C'est ça. Bon, déjà, pour moi, là, ça flop. Ensuite, Lakers 2004, ça flop. Ensuite, t'as le Celtics qui gagne. T'as les Celtics qui gagnent, donc ça fait un peu. Voilà.
Miami 2006, ça gagne, mine de rien.
Ouais.
Ouais, mais en vrai c'est pas, je considère pas comme une super team parce qu'en soi, c'est Wade qui est drafté, qui est en saison 3 NBA, t'as Shaq qui est vieillissant, en fait.
Autour, t'as que des vétérans, t'as des Gary Payton, des Jason Williams,
ouais,
des Antoine Walker.
C'est différent.
C'est vraiment la première réussite, c'est vraiment les Celtics où t'as trois mecs à leur prime qui se rejoignent dans une franchise.
Ouais.
Oui.
Ouais,
des échecs criants, les Nets de 2013, je crois, c'était 2013 de mémoire.
Ouais.
C'est un flop monumental.
Kevin Garnett, Paul Pierce.
Ils passent toujours un peu entre les mailles du filet quand on parle de Super Team en 2008. Mais c'est clairement. T'as Garnett et Ray Allen qui font les bandeurs et qui vont au Celtics. Hein.
Ah, et surtout qu'ils sortent tous les deux de saison all-time. Ils sortent de leur meilleure saison individuelle, les deux. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc, c'est
et derrière,
c'est...
tu draftes Rondo et tout, en plus. Hein.
Ouais, enfin, Rondo, il est arrivé quand même avant. Il est arrivé en 2006. Ça va dans cette continuité-là. Je suis d'accord.
Mais les Nets, ils vont casser leur mauvaise dynamique. Là. Ils ont des meilleurs coachs. Rookie qui va arriver l'année prochaine avec Jordi Fernandez.
Jordi Fernandez, ouais.
C'est une grosse perte pour les Kings, on se rend pas compte, mais je pense qu'on va pleurer. Hein.
Bah, c'est vrai que son arrivée du côté des Nets, ça a l'air d'être excellemment reçu, hein, et on en entend en tout cas que des éloges hein, du
côté.
Il
va nous envoyer Bridges contre Harrison Barnes, c'est un paquet de clopes.
malgré tout, franchement, ça peut être très intéressant pour les Kings. Hein.
Oui, mais bon, les Nets n'y gagnent rien, on va pas se mentir.
C'est sûr. Non, c'est sûr.
Vlad, je voulais revenir sur un truc. Tu as parlé de 2013, mais il n'y a pas de titre NBA en 2013.
Est-ce que tu ne ferais pas ce qu'on appelle du déni des fois?
Non,
absolument pas.
Je sais ce que tu vis avec 2002, j'ai pas lâché. Hein.
Ça fait dans le déni.
Il avait marché.
Quand tu supportes une franchise où la star c'est Tony Parker, tu peux être que dans le déni. Hein,
C'est sûr, quand t'es fan des Lakers, c'est facile. Regarde, déjà, juste 2002, voilà.
Ah ouais,
tous les ans, il y a des vols.
Hein. Mais 2002, le Mike Bibby, il est là, il est en train de zouker Kobe Bryant. Heureusement qu'il se prend un coup de coude dans la gueule. Qui n'aurait pas mis le coup de coude dans la gueule, l'autre, il est en train de l'attraper, je lui fais un câlin. Moi, j'aurais même mis un coup de genou dans les couilles, moi.
je vais
m'arrêter là, sinon je vais être grossier.
Ouais.
Tu vois la vidéo, on dirait qu'il y avait ancré à ton port de famille en fond. Tu sais, tu peux faire un montage.
Au-delà du coup de coude, le Game 5, il est juste. Voilà.
Ouais.
J'ai eu la chance de le vivre en direct parce que je suis assez vieux pour ça. Je vais pas revenir dessus, mais bon, voilà quoi.
Ah, le Game 5, c'est vrai que.
Vous avez gagné de plus large, c'est tout.
Oui, c'est vrai. Vu comme ça, oui.
Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoutez, très bien, messieurs.
Ne jamais laisser en vie un lion blessé.
Oui, bien sûr.
Dit-il, fan des Lakers qui ont laissé les Nuggets revenir.
On a Dinwiddie maintenant.
Pardon, excuse-moi. Excuse-moi.
Hein, on a Dinwiddie et Gab Vincent, c'est comme si t'avais Timon et Pumba, tu vois. C'est...
Oh putain.
Pas terrible. Sans oublier le grand Jackson Hayes.
Ouais.
Oh merde, je l'avais oublié.
Et bouffeur de soupe.
Ah, pas moi.
je suis mort.
Qui est naze, là, putain.
Bon, en tout cas, messieurs, pour répondre à la question, de ce débat, avec tout ce qu'on a pu avancer, je vous laisse répondre chacun. Perte de vitesse ou pas pour les franchises californiennes?
Fin de cycle, je dirais.
Ok.
Fin de cycle et début d'un autre.
Pareil.
Ouais.
Ouais.
Ok.
Nouveau modèle aussi à s'approprier.
Très bien, très bien.
Pour les Lakers, je pense que le modèle n'existera jamais.
Non, pas pour les Lakers, mais pour le reste.
Le modèle des Lakers, c'est gagner le titre l'année prochaine, point barre.
Il n'y a qu'un truc qui ne change pas, hein. Ouais. C'est que Davis ne gagne pas contre Sabonis.
Grave. Les Européens, même, on peut dire, limite.
Oui,
hein.
C'est ça, on élargit, même Jokic, il n'arrive pas.
Attends, mais je me faisais la réflexion, c'est qui le dernier mec que les Lakers ont drafté et bien développé derrière?
Bah Russell, il est là.
Ouais.
Je rigole.
Bah, est-ce que ce serait pas Kobe?
Bah ouais.
Bah franchement, ouais. Ouais.
Bah, Austin
Reeves,
Bynum.
Austin Reeves,
messieurs. Bynum,
Bah non, Sirius, il est pas drafté.
Oui.
Donc voilà, ça compte pas.
Ouais, il est pas drafté, mais bon.
Ah non, mais c'est Bynum, hein, les gars.
Ils auraient pu avec tous les jeunes qu'ils ont dégagés pour les Browns, quoi. Ou Anthony Davis. Non, c'était Anthony Davis, je crois.
Mais c'est Bynum en soi le dernier. Bynum qui est drafté super jeune.
Ah,
et qui ensuite. Ils sont
auto-détruits.
Ils sont auto-détruits, voilà, mais en tout cas, c'est lui qui a été poussé jusqu'au titre. Enfin, il a été artisan du titre quand même. Tu vois,
Andrew Bynum, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est Bynum. C'est pas mal, ouais. En effet.
Bynum qui en saison rookie est un mec qui tourne à 1,6 points par exemple. Et qui, aux saisons du titre, tourne à 14.
Ouais, et qui ensuite part aux Sixers avec une coupe façon boule de bowling. Donc, bon, voilà. Ouais.
Qui d'abord met une corde à linge
à Barrière. Ouais, c'est à Barrière.
Un coup d'épaule de l'autre monde, un coup de coude.
Oh, ouais, putain. Ouais. Aïe. Bon, ça nous rajeunit pas, tout ça.
Tu es en train de me dire que le dernier mec qu'ils ont bien développé aux Lakers, il a arrêté sa carrière à 26 ans.
Oh, putain.
Ouais. Après, il a eu les pépins physiques, hein, mais il était bon.
Bravo.
Ouais. Enfin bref, passons.
Quel âge Alonso Ball déjà?
Non mais bah, arrêtez, parce que ça me fait mal, parce que ça fait mal Alonso Ball quand même. Ça fait mal, hein.
26 ans.
Parce qu'au Bulls, j'y ai cru au début, hein, quand je l'ai vu jouer. Hein.
Ah bah tout le monde y a cru.
Surtout son père.
Ouais, surtout son père. Et maintenant il porte plein de contre Puma.
Et son père.
Je pense que son frère va le rejoindre à l'infirmerie en plus. Ça,
ouais, bon.
Bah, il est déjà.
Par contre, pour Puma, je suis presque d'accord, hein, parce que le père de Marvin Bagley avait déjà éventualisé ça il y a quelques années.
Ouais.
Quand Bagley a signé avec Puma, c'est là où il a eu des problèmes au niveau des chevilles. Donc, et ça commençait à dire que Puma, c'était pas hyper fiable pour le basket au final.
Ouais, bah en même temps, ouais, ouais. Moi,
je sais pas, mais.
Est-ce que Puma, c'est fiable tout court en soi, j'ai envie de dire on rappelle qui est-ce qui soutenait politiquement au départ.
Ça, c'est un autre sujet, on ne reviendra pas dessus.
Cela ne nous concerne pas.
Des chaussures qui ne font pas fureur. Hein.
Ouais, oula, ouf. Ouais, technique, celle-là.
Franz Wagner, il est signé où?
Chez Adidas peut-être.
aïe. Bon bah écoutez, très bien messieurs, bon ce fut quand même un bon petit débat autour des équipes californiennes, bon qui a pris un peu plus large pour le coup. Et bah écoutez, on arrive, alors on va pas faire un starting 5 coupeur de citron, je vous propose qu'on se réserve ça pour la fin du premier tour.
Tu veux pas mettre Anthony Davis dans les coupeurs de citron?
Vas-y, lui, c'est un coupeur de citron originel, lui.
Bande d'enfoirés, Anthony Davis, il tourne à combien sur les deux matchs, quand même?
Il tourne à zéro victoire.
Attends, dis en première mi-temps et en seconde mi-temps à combien il tourne.
C'est vrai, mais il tourne à 32 points.
Bon, bah, écoutez, très bien, messieurs. Bon, bah, c'est la fin de ce nouvel épisode, épisode bien animé pour le coup. N'hésitez pas, bien sûr, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, histoire de nous donner un petit coup de pouce pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Vous retrouvez, bien sûr, également Forever sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, TikTok, un compte Forever Podcast, ainsi qu'Instagram, compte Forever le podcast.
MSN OnlyFans.
Voilà. Encore. Peut-être plus tard. On verra.
Mais nu dans mon profil.
Oui. Et en tout cas, merci Laurent.
C'est toujours un plaisir de
nous avoir accompagné. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu en profites peut-être un petit peu de pub au passage.
Ouais, bah on est aussi un peu partout. Big up à Titouan qui est notre CM qui gère Insta et TikTok là depuis l'année dernière. Donc il fait un gros boulot. Toujours notre podcast Sacramento qu'on va essayer de plus le développer en faisant plus d'épisodes. Là, on va en enregistrer un pour la fin de saison. Mm-hmm. Voilà, on est toujours là. On essaie d'être aux aguets. Je fais la bise à mon co-CM Olive et à tous les rédacteurs du site. Donc voilà, on essaie de faire vivre cette équipe tant qu'on peut, tant qu'on est encore vivant. Donc voilà, rejoignez-nous. On essaye d'être dans l'autodérision autant que dans le sérieux. Et il en faut qu'on est supporters des Kings.
Et vous pourrez en profiter pour retrouver justement tous les liens directement dans la description de cet épisode. Merci une nouvelle fois Laurent, merci Quentin, merci Kevin, merci Samuel. On se dit à mercredi prochain et surtout n'oubliez pas que la vie est une fête. Ciao, ciao.
Ciao.